Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Kafka, les médotanos.
Kafka nous a appris ce que sont les profondeurs.
Aaron Appelfeld.
Vemamakim, Vadavar Hanifla et Kafka.
Ce qui est fantastique chez Kafka, c'est qu'il a vu la Seconde Guerre mondiale sans l'avoir vécu.
Ça peut pas faire de mal.
Toute sa famille, ses trois sœurs, sont mortes à Auschwitz. Il a compris que ce monde était une sorte de roue absurde dans laquelle on ne savait où les choses commençaient, où elles se terminaient.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K. Car un matin, sans qu'il ait rien fait de mal, il fut arrêté. Ce jour-là, la cuisinière de sa logeuse, qui tous les jours, vers 8 heures du matin, lui montait le petit déjeuner, ne vint pas. Ça n'était encore jamais arrivé. K attendit encore un moment, puis, tout à la fois intrigué et affamé, il sonna. Aussitôt, un homme qu'il n'avait encore jamais vu dans cet appartement entra. Il était mince et malgré tout solidement bâti. Il portait un habit noir, bien ajusté. « Qui êtes-vous ?» demanda K en se relevant à moitié dans son lit. Mais l'homme passa outre à la question et dit simplement de son côté « Vous avez sonné ?»« Anna doit m'apporter le déjeuner, » dit K, essayant d'abord en silence, par un effort d'attention et de réflexion, d'établir qui pouvait bien être cet homme. Celui-ci, cependant, ne s'exposa pas longtemps à son regard. Il se tourna vers la porte, qu'il ouvrit un peu pour dire à quelqu'un « Il veut qu'Anna lui apporte le déjeuner. » Un petit rire suivit ces mots dans la pièce d'à côté. L'inconnu dit alors à K, sur le ton d'un communiqué, « C'est impossible. » « Voilà qui serait nouveau, » dit K, sautant du lit et enfilant promptement son pantalon. « Je voudrais quand même voir qui sont ces gens dans la pièce d'à côté et comment Madame Groubach, ma logeuse, va répondre devant moi de ce dérangement. » Dans la pièce d'à côté, les choses avaient l'air rigoureusement identiques à ce qu'elles avaient été la veille au soir. C'était le grand salon de Madame Groubach. La modification principale consistait en la présence d'un homme, assis à la fenêtre ouverte, en train de lire un livre dont il leva alors les yeux. « Vous auriez dû rester dans votre chambre. Franz ne vous l'a donc pas dit ?»« Si, mais c'est Madame Groubach que je veux, » dit K en faisant un mouvement comme s'il cherchait à se dégager des deux hommes et voulait continuer son chemin. « Non, » dit l'homme à la fenêtre, se levant. « Vous n'avez pas le droit de partir, vous êtes prisonnier. » Vous aurez peut-être reconnu la première scène du procès, le chef-d'œuvre de Franz Kafka.
« Enfin, vous n'êtes quand même pas venu pour moi ?»
Le point de départ de ce roman saisissant tient en une phrase.
Si.
Le jour de son 30e anniversaire, Joseph K, un individu sans histoire, est arrêté chez lui à l'aube. Pourquoi ? Par qui ? Le motif de cette arrestation jusqu'au bout demeure inconnu. Mais page après page, l'histoire de K nous révèle un univers de plus en plus angoissant, absurde et sans issue. Né en 1883 à Prague, Franz Kafka, ce n'est pas anodin, étudie le droit. Il commence à écrire le procès en 1914, 2 ans après sa fameuse nouvelle « La Métamorphose ». Nous sommes quelques jours seulement après le début de la guerre et Kafka vient de rompre ses fiançailles avec Felice Bauer. Il rédige le procès en quelques mois, tout en travaillant à un autre texte célèbre, « La colonie pénitentiaire ». Le roman inachevé ne sera publié qu'après sa mort et contre sa volonté. Une progression implacable en 10 chapitres qui nous plonge dans un profond malaise. Car le procès préfigure avec une incroyable intuition les totalitarismes qui suivront. Le cinéaste Orson Welles ne s'y est pas trompé. En 1962, il adapte le roman à l'écran.
Pourquoi vouliez-vous vous habiller ? Vous n'allez nulle part. Vous êtes en état d'arrestation. De quoi suis-je accusé ? Quel délit ai-je commis ? Après tout, ce n'est peut-être qu'une plaisanterie.
Entrons donc ce soir dans ce labyrinthe kafkaïen, dans une toute nouvelle traduction de l'allemand assurée par Jean-Pierre Lefebvre pour la collection de la Pléiade chez Gallimard. Reprenons l'histoire à son début. Ce matin-là a tout d'un mauvais rêve. Nous sommes à l'aube, dans la capitale d'un pays en paix. Joseph K, célibataire, n'a rien à se reprocher. Locataire préféré de sa logeuse, Madame Groubach, il occupe un bon poste dans une banque où le directeur l'apprécie beaucoup. À son réveil, pourtant, deux inconnus font irruption dans sa chambre et lui annoncent qu'il est arrêté. K est interloqué. On lui ordonne de passer dans la chambre d'une locataire absente, Mademoiselle Bürnsner, où l'attend un certain superviseur. Au milieu des affaires de la jeune femme, un étrange interrogatoire s'amorce. Et déjà, K vacille face à la logique implacable qu'on lui oppose. Joseph K, vous êtes sans doute très surpris par ce qui s'est passé ce matin, demanda le superviseur tout en poussant des deux mains les quelques objets présents sur la table de nuit de Mademoiselle Bürnsner, les bougies avec les allumettes, un livre et un porte-épingle, comme si c'était des objets dont il avait besoin pour l'audience. Assurément, dit K, saisi alors par le sentiment réconfortant de se trouver enfin face à un homme raisonnable. Assurément, je suis surpris, mais je suis loin d'être très surpris. Pas très surpris, demanda le superviseur. Peut-être me comprenez-vous mal, fit remarquer K sans attendre. Je veux dire, K s'interrompit et chercha des yeux un siège autour de lui. Je peux quand même m'asseoir, demanda-t-il. Ce n'est pas l'usage, répondit le superviseur. Je veux dire, reprit alors K aussitôt sans plus s'interrompre, je suis certes très surpris, mais quand on est depuis 30 ans sur cette terre, qu'on a dû s'y frayer un chemin tout seul, comme cela a été mon cas, on est endurci contre les surprises et on ne les prend pas trop mal, celle d'aujourd'hui encore moins. Et pourquoi celle d'aujourd'hui encore moins? Je ne veux pas dire que je considère tout cela comme une plaisanterie. Les dispositions qui ont été prises me paraissent quand même trop importantes pour que ce puisse être le cas. C'est tout à fait exact, dit le superviseur tout en regardant combien d'allumettes il restait dans la boîte. Mais d'un autre côté, l'affaire ne peut pas non plus avoir beaucoup d'importance. Je le déduis du fait que je suis accusé, mais que je ne parviens pas à trouver la moindre faute pour laquelle on pourrait m'accuser. Mais ça aussi, c'est secondaire. La question principale est, par qui suis-je accusé? Quelle est l'autorité qui conduit la procédure? Êtes-vous fonctionnaire? Aucun d'entre vous ne porte d'uniforme. J'exige que la clarté soit faite sur toutes ces questions. Et je suis convaincu qu'après cette clarification, nous pourrons prendre congé l'un de l'autre le plus cordialement du monde. Le superviseur reposa brutalement la boîte d'allumettes sur la table. « Vous faites une grande erreur, dit-il. Ces messieurs ici et moi-même sommes totalement accessoires dans votre affaire. Nous n'en savons même presque rien. Je ne peux absolument pas vous dire non plus que vous êtes accusé, ou plutôt, je ne sais pas si vous l'êtes. Vous êtes seulement arrêté, rien de plus. C'est ce que j'avais apporté à votre connaissance. Je l'ai fait et j'ai vu comment vous avez pris la chose. C'est tout pour aujourd'hui et nous pouvons prendre congé de façon, il est vrai, seulement provisoire. Je suppose que vous voudrez aller à la banque maintenant. » « À la banque ?» demanda K. « Je pensais que j'étais arrêté. » « Ah, c'est ça, » dit le superviseur. « Vous m'avez mal compris. Vous êtes arrêté, c'est certain, mais cela ne doit pas vous empêcher d'exercer votre profession. Il ne faut pas non plus que cela vous empêche, en quoi que ce soit, de mener votre vie habituelle. » « L'état d'arrestation n'est donc pas bien grave, » dit K en s'approchant tout près du superviseur. « Je n'ai jamais rien voulu dire d'autre, » dit celui-ci. Et pourtant, la procédure a bien commencé. L'organisation qui arrête K a tout prévu. Trois collègues l'attendent dès la fin de l'entretien pour le raccompagner à la banque. Toute la journée, K tente de donner le change à son travail. Mais le soir, éprouvé, il se confie à deux personnes. D'abord à sa logeuse, Madame Grobach, puis à Mademoiselle Bürnsner, la locataire dans la chambre de laquelle il a été interrogé le matin même. Chacune tente de le rassurer.
De quoi on vous accuse?
Ils n'ont pas dit, justement. La seule chose qu'on ait apprise, c'est qu'on fera comparaître devant une espèce de commission d'enquête. Je ne sais pas autre chose.
On ne fait ça que dans des cas très graves.
C'est ce que je pensais.
Et ils vous ont dit que votre affaire n'était pas grave?
Non, ils n'ont pas dit ça. C'est affreux comme on arrive à se démoraliser vite. Évidemment, c'est ce qu'ils souhaitent.
K, attiré par Mademoiselle Bürnsner, finit par l'embrasser. 10 jours plus tard, un dimanche matin, K est convoqué au tribunal. Il s'y rend bien décidé à boucler l'affaire. À sa grande surprise, l'adresse indiquée se situe dans un faubourg pauvre et désigne un immeuble misérable. K parcourt tous les étages avant d'être accueilli par une jeune lavandière qui semble l'attendre. Et le voici propulsé au milieu d'un étrange tribunal. « Entrez !» dit une jeune femme aux yeux noirs et lumineux qui lavait des vêtements d'enfant dans un baquet. Et elle montra à K, d'une main mouillée, la porte ouverte de la pièce voisine. K crut rentrer dans une réunion publique. Une foule de gens les plus divers remplissait une pièce de dimension moyenne pourvue de 2 fenêtres. Une voie étroite se trouva quand même libre, elle séparait peut-être 2 parties adverses. À l'autre bout de la salle où K fut conduit, trônait une petite table disposée sur une estrade également bondée et derrière elle était assis un petit homme rondouillard qui respirait bruyamment. Quelqu'un sauta de l'estrade, laissant ainsi une place pour K qui monta la prendre. Il était coincé tout contre la table. Le juge d'instruction attrapa un cahier de notes. On aurait dit un cahier d'écolier, vieux, tout déformé à force d'avoir été feuilleté. « Donc, dit le juge en feuilletant le cahier puis en s'adressant à K sur le ton du constat, vous êtes peintre décorateur ?»« Non, dit K, je suis fondé de pouvoir dans une grande banque. » Cette réponse fut suivie dans la partie droite de la salle d'un éclat de rire si chaleureux que K ne put s'empêcher de rire à son tour. Mais la moitié gauche de la salle restait calme. Les gens se tenaient alignés en rang, le visage tourné vers l'estrade. Lorsque K commença alors à parler, il était convaincu de parler dans leur sens. « Votre question, monsieur le juge d'instruction, quant à savoir si je suis peintre décorateur, est caractéristique de toute la manière dont la procédure est engagée contre moi. » K osa même subtiliser d'un geste prompt le cahier et le soulever du bout des doigts, comme s'il lui inspirait de la crainte, si bien que des deux côtés on vit pendre les feuilles crasseuses, jaunies sur les bords, couvertes d'une écriture serrée. « Voici les dossiers de monsieur le juge d'instruction, » lança-t-il en laissant tomber le cahier sur la table. « Ce qui m'est arrivé, poursuivit-il d'une voix un peu plus basse, n'est qu'un cas individuel, et en tant que tel, ce n'est pas important, car je ne prends pas cela au tragique. Mais c'est symptomatique de la façon dont on procède avec bien des gens. C'est pour eux que j'interviens, pas pour moi !» Il avait involontairement élevé la voix. Quelque part, quelqu'un applaudit en levant les mains et cria « Bravo !» K s'en trouva encouragé. « Ce que je veux, c'est seulement qu'on discute publiquement d'une réalité publique néfaste. Écoutez, j'ai été arrêté il y a 10 jours. On m'est tombé dessus à l'aube, dans mon lit. La pièce voisine de ma chambre était investie par 2 gardiens grossiers. Si j'étais un dangereux voleur, on n'aurait pas pu choisir meilleure précaution. Ces gardiens, en outre, étaient des canailles sans morale. Toute cette histoire ne m'a causé que des désagréments et une contrariété passagère. Mais n'aurait-elle pas pu avoir des conséquences plus graves ? Le silence se fit, tant K avait déjà conquis la maîtrise de l'assemblée. On semblait déjà convaincu ou en passe de l'être. « Il ne fait aucun doute, dit K à voix très basse, car il se réjouissait de l'écoute attentive de l'assemblée tout entière, il ne fait aucun doute qu'il y ait derrière toutes les déclarations de ce tribunal une grande organisation. Des personnes innocentes sont arrêtées et l'on engage contre elles une procédure absurde et le plus souvent, comme dans mon cas, stérile. » K fut interrompu par un cri strident dans le fond de la salle. C'était la lavandière. Un homme l'avait attirée dans un coin près de la porte et la serrait contre lui. Ce n'était pourtant pas elle qui avait poussé ce cri, mais l'homme. Il avait la bouche étirée par une large grimace et regardait le plafond. Un petit cercle s'était formé autour des deux personnages. K voulut courir voir aussitôt, mais les premiers rangs restaient étroitement serrés. Personne ne bougea et personne ne laissa passer K. Il était désormais face à la foule, les yeux dans les yeux. Avait-il mal jugé ces gens ? Avait-il trop fait confiance à l'effet de son discours ? Sous les barbes, et ce fut la vraie découverte que fit K, des insignes de différentes tailles et de divers coloris luisaient au revers des cols de veste. Tous portaient ces insignes. Tous ces gens-là, ces partis apparemment adverses, appartenaient au même camp. Et quand il se retourna soudain, il aperçut les mêmes insignes au col du juge d'instruction. « Ah, c'est comme ça !» s'écria K en levant les deux bras au ciel. « Vous êtes tous des fonctionnaires, vous êtes la clique des corrompus que j'ai attaqués dans mon discours. » Il se fraya un chemin vers la sortie, mais le juge d'instruction avait été plus rapide encore, car il l'attendait près de la porte. « Un instant, » dit-il. « Je voulais seulement vous signaler qu'aujourd'hui, vous vous êtes dépouillé vous-même de l'avantage que représente dans toute affaire un interrogatoire pour la personne arrêtée. »«
Vraiment, monsieur K, vous faites tout pour aggraver votre affaire. »
Allez-vous enfin me dire quelle est cette affaire dont vous me parlez ?
Mais je ne vous ai parlé de rien.
Mais justement, pourquoi ne m'en parlez-vous pas ? De quoi suis-je accusé ?
Ce n'est pas mon rôle de vous le dire.
De quoi suis-je accusé ?
Monsieur K, vous ne prétendez pas être innocent ?
Mais quelle est cette troublante organisation ? Sans nouvelles du tribunal, K y retourne le dimanche suivant. Les lieux sont déserts. Seule la lavandière est là. Elle révèle à K que les audiences se déroulent enfin dans son appartement. K découvre que les livres du juge d'instruction sont couverts de dessins obscènes et la lavandière elle-même, attirante, semble être la maîtresse de plusieurs des membres du tribunal. Alors qu'elle offre son aide à K, l'étudiant, qui avait perturbé l'audience, ressurgit et l'enlève pour l'emmener chez le juge d'instruction. K n'est pas au bout de ses surprises. Le mari de la lavandière, employé du tribunal, lui propose de visiter les bureaux. K rencontre pour la première fois d'autres accusés qui patientent dans le grenier de l'immeuble. Tous respirent la honte et l'humiliation. K est pris d'un malaise. C'est dans ces circonstances que l'oncle Karl arrive à la rescousse, découvrant cet extrait plus léger où le désordre comique de l'oncle souligne la passivité de K. Un après-midi, K était très occupé, son oncle Karl, un petit propriétaire terrien de la campagne, se faufila dans le bureau. K fut moins effrayé en le voyant qu'il ne l'avait été depuis un certain temps déjà à l'idée de sa venue. Il le voyait maintenant un peu penché, son panama cabossé dans la main gauche, tandis que de loin déjà, sa main droite se tendait vers lui, par-dessus le bureau, avec une précipitation brutale, renversant tout ce qui lui faisait obstacle. L'oncle était toujours pressé, poursuivi par l'idée malheureuse que lors de ses séjours dans la capitale, qui ne durait jamais que 24 heures, il fallait qu'il expédie tout ce qu'il avait prévu de faire. K, dont il avait été le tuteur, devait lui venir en aide en toutes circonstances et lui offrir en outre l'hospitalité pour la nuit. Il l'avait surnommé le fantôme du terroir. Dès qu'ils se furent salués, l'oncle pria K de lui accorder un bref entretien en tête-à-tête. « Il le faut absolument, dit-il en déglutissant avec peine. Il le faut absolument pour me rassurer. » K fit aussitôt sortir les employés de la pièce. « Qu'ai-je appris, Joseph ?» s'exclama l'oncle quand ils furent seuls. Et il s'assit sur la table en entassant, sans les regarder, différents papiers derrière lui pour être mieux installé. « Je devine ce que tu veux, » dit K avec docilité. « Tu as sans doute entendu parler de mon procès. »« Oui, mon oncle, c'est vrai. »« Vrai ?» s'exclama l'oncle. « Quel procès ? Pas un procès pénal, quand même. »« Un procès pénal, » répondit K. « Et tu restes tranquillement assis là, avec un procès pénal sur le dos, » s'exclama l'oncle qui parlait de plus en plus fort. « Plus je me tiens tranquille, mieux ça vaut pour l'issue, » dit K fatigué. « Ne crains rien. Ça ne peut pas me tranquilliser, » s'exclama l'oncle. « Joseph, mon cher Joseph, pense à moi, pense à toi, à ta famille, à notre réputation. Jusqu'à présent, tu étais notre honneur, tu n'as pas le droit de devenir notre honte. Ton attitude, » il regardait K en penchant la tête de travers, « ne me plaît pas. Un accusé innocent qui est en possession de tous ses moyens ne se conduit pas comme ça. Dis-moi seulement de quoi il retourne pour que je puisse t'aider. Il s'agit naturellement de la banque. » « Non, » dit K en se levant. « Tu parles trop fort, cher oncle. L'employé est sans doute en train d'écouter à la porte. Il vaut mieux que nous sortions. » « Je donne quelques instructions. » Il appela son adjoint, qui entra peu après. K s'adressa au jeune homme et lui expliqua à voix basse ce qui devait encore être réglé en son absence. Pendant ce temps, son oncle se mit à faire les 100 pas dans la pièce, se plantant de temps à autre devant la fenêtre ou un tableau, sans cesser de pousser des exclamations du genre « Pour moi, c'est complètement incompréhensible !» ou « Dites-moi donc un peu ce que tout ça va donner !» Il n'eut malheureusement pas moyen, quand ils furent dans le hall d'entrée, où traînaient quelques cadres et employés de la banque, d'inciter l'oncle à laisser de côté les questions sur le procès. « Donc, Joseph, » commença l'oncle, tout en répondant par un bref salut réglementaire aux courbettes des gens qui se trouvaient là, « dis-moi franchement maintenant, ce que c'est que ce procès ?» K fit quelques remarques sans rapport avec la question, rit aussi un peu, et c'est seulement dans l'escalier qu'il déclara à l'oncle ne pas avoir voulu parler ouvertement devant ces gens. « Bien vu !» dit l'oncle. « Mais maintenant, parle !» Il tendait l'oreille, la tête penchée, en fumant un cigare par brève bouffée fébrile. « Pour commencer, mon oncle, » dit K, « il ne s'agit pas du tout d'un procès devant le tribunal habituel. »«
Ça, c'est mauvais !» dit l'oncle. « Mais comment est-ce donc arrivé ? Les choses de ce genre ne surviennent quand même pas d'un seul coup. Elles se préparent depuis longtemps. Il y a certainement eu des signes. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit ? Je t'aiderai encore cette fois, naturellement, mais à présent que le procès est déjà en cours, c'est très difficile !» Peu importe, ce qui compte maintenant, c'est de ne pas perdre de temps. »
Avant même d'avoir fini de parler, il s'était déjà dressé sur la pointe des pieds pour faire signe à une automobile. «
Nous allons maintenant chez l'avocat Hould, » dit-il. C'était mon camarade d'école. « Je suis sûr que toi aussi, tu connais ce nom. »«
Non ?
C'est étrange. Il a pourtant belle réputation de défenseur et d'avocat des pauvres. »
« Tout ce que tu entreprends me convient, » dit K, bien que la manière hâtive et urgente avec laquelle l'oncle traitait l'affaire le mit mal à l'aise. Il n'était pas très réjouissant, étant accusé, d'aller trouver un avocat des pauvres.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Gentle wind.
Voici donc K et son oncle quelques instants plus tard chez l'avocat Hould.
Aucune importance. Nous pouvons parler devant l'ennemi, c'est la discrétion même.
Chut. Il ne s'agit pas de moi personnellement. C'est pour ça que ça me gênerait un peu.
Il s'agit de qui alors?
De mon neveu. Je l'ai amené avec moi.
Hein?
Joseph K.
Joseph K.
Mais là non plus, rien ne se passe comme prévu.
Je ne vous avais pas vu.
La prise de contact a lieu dans d'étranges circonstances.
Ainsi, vous venez me consulter pour votre affaire.
À la nuit tombée, dans la chambre de l'avocat. Celui-ci, alité et veillé par une jeune garde malade, Lenny. Déjà informé du procès de K, il accepte de suivre l'affaire. Mais la discussion est interrompue par l'apparition d'un collègue de l'avocat, un certain directeur du greffe, qui monopolise la parole. Tandis que K s'ennuie ferme avec les trois vieillards, un bruit de porcelaine brisée se fait entendre hors de la chambre. K profite alors de ce prétexte pour s'éclipser. Je vais aller voir ce qui s'est passé, dit K. Et il sortit lentement de la pièce comme s'il laissait encore aux autres la possibilité de le retenir. À peine eut-il pénétré dans l'antichambre qu'une petite main vint se poser sur la sienne. C'était la garde malade qui avait attendu là. « Il ne s'est rien passé, » chuchota-t-elle. « J'ai simplement lancé une assiette sur le mur pour vous faire venir. » K, gêné, dit « Moi aussi, j'ai pensé à vous. »« Tant mieux, » dit la garde malade. « Entrez donc. » C'était le bureau de l'avocat. « Par ici, » dit la garde malade en lui désignant un coffre muni d'un dossier en bois sculpté. « Au fait, appelez-moi Lenny. » Une fois assis, K se retourna pour examiner la pièce. Elle était haute et vaste. Un grand tableau accroché à droite de la porte attira particulièrement son attention. Il représentait un homme en toge de juge, assis en haut d'un trône dont les dorures ressortaient fortement de la toile. « C'est peut-être mon juge, » dit K en montrant le tableau du doigt. « Je le connais, » dit Lénie en levant les yeux vers le tableau. « Il vient assez souvent par ici. » Le tableau date de sa jeunesse, mais il est impossible qu'il lui ait jamais ressemblé, car ce juge est presque minuscule. Il s'est quand même fait étirer ainsi sur le tableau, car il est intensément vaniteux comme tout le monde ici. Mais moi aussi, je suis vaniteuse, et très mécontente de ne pas vous plaire du tout. » K ne répondit à ses dernières remarques qu'en enlaçant Lénie et en l'attirant contre lui. Quant au reste, il demanda « Quel est son grade ?»« Il est juge d'instruction. Mais faut-il que vous pensiez sans cesse à votre procès ?» ajouta-t-elle lentement. « Non, absolument pas, » dit K. « J'y pense même sans doute trop peu. »« Ce n'est pas ça l'erreur que vous commettez, » dit Lénie. « Vous êtes trop intraitable à ce que j'ai entendu dire. » « Qui a dit ça ?» demanda K, qui sentait le corps de la femme contre sa poitrine et les yeux baissés contemplait les tresses serrées de son abondante chevelure sombre. « J'en trahirais trop si je le disais, » répondit Lénie. « S'il vous plaît, ne demandez pas de nom, mais mettez votre défaut en sourdine. » Ne soyez plus aussi intraitable. On ne peut pas se défendre contre ce tribunal. Il faut avouer. Passez donc aux aveux à la prochaine occasion. C'est seulement après qu'il y a une possibilité de s'échapper. Seulement après. Et même ça, ce n'est pas possible sans une aide extérieure. Mais vous n'avez pas besoin de redouter quoi que ce soit à ce sujet. Je vous la fournirai moi-même. Vous êtes bien renseigné sur ce tribunal et sur les impostures auxquelles il faut se livrer ici, dit K en la soulevant, car elle se pressait trop fort contre lui. Et il l'assit sur ses cuisses. Et si je ne fais pas cet aveu, « Vous ne pouvez pas m'aider ?» demanda-t-il à tout hasard. « Non, » répondit Lénie en secouant lentement la tête. « Dans ce cas, je ne peux pas vous aider. J'ai un petit défaut. Regardez. » Elle écarta le majeur et l'annulaire de sa main droite, entre lesquels la petite peau de liaison montait presque jusqu'à l'articulation supérieure de ses doigts courts. « Jolie lubie de la nature, » dit K. Puis il ajouta, après avoir regardé toute sa main, « Mignonne petite griffe. » Lénie observait avec une espèce de fierté l'étonnement de K qui n'arrêtait pas d'écarter et de resserrer ses deux doigts et pour finir posa sur eux un baiser furtif et les lâcha. « Oh !» s'exclama-t-elle alors aussitôt, « vous m'avez embrassée !» Preste, la bouche ouverte, elle escalada ses cuisses sur les genoux. K la contemplait presque contrariée. Maintenant qu'elle était si près de lui, il émanait d'elle une odeur excitante et amère, comme poivrée. Elle attira la tête de K contre elle, se pencha dessus, puis le mordit et l'embrassa dans le cou, le mordit jusque dans les cheveux. Son genou glissa et elle tomba presque sur le tapis en poussant un petit cri. K l'enlaça pour la retenir encore et elle l'entraîna à terre avec elle. « Maintenant, dit-elle, tu es à moi. Tiens, je te donne la clé de la maison, viens quand tu veux. » Telles furent ses dernières paroles. Et un dernier baiser, donné au hasard, lui parvint encore dans le dos tandis qu'il s'en allait. Retrouvons l'avocat Hould et la troublante Lénie quelques mois plus tard dans ces mêmes lieux. K se rend régulièrement chez l'avocat à qui il a confié son dossier, mais il doute de son efficacité.
J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi, mais j'ai bien peur qu'il faille à présent prendre des mesures plus énergiques.
Depuis que je suis venu vous voir, qu'avez-vous fait pour moi ?
Rien. Ai-je vu de mes clients qui se trouvaient dans leur procès au même point que vous, à cette même place, me tenant exactement les mêmes propos.
Ces visites sont surtout l'occasion de revoir Lénie devenue sa maîtresse. Préoccupé, K tente de glaner des informations auprès d'un peintre, Titorelli, qui travaille pour le tribunal. Celui-ci lui expose différentes pistes de défense dont aucune n'est satisfaisante. Décidé à congédier son avocat, K se rend un soir chez lui. Il est accueilli par un petit homme misérable prénommé Bloch, un vieux client de l'avocat. Autrefois riche marchand, celui-ci a placé tous ses biens au service de son procès et loge désormais sur place dans un petit cagibi. Lorsque K annonce à l'avocat Hould qu'il souhaite lui retirer son affaire, ce dernier, pour l'en dissuader, lui propose d'assister à son entretien avec Bloch. Dans la chambre de l'avocat se joue alors un cruel épisode. L'avocat et Lénie, complices, accablent l'accusé Bloch jusqu'à lui ôter toute dignité. Voyons comment K réagit à cette mise en scène. Bloch était arrivé dès qu'on l'avait appelé, mais il restait devant la chambre de l'avocat Hould et semblait se demander s'il devait entrer. Il levait les sourcils et inclinait la tête comme pour entendre si l'ordre de venir se présenter allait être répété. K aurait pu l'encourager, mais il s'était promis de rompre définitivement non seulement avec l'avocat, mais avec tout ce qui se trouvait ici dans la maison. il ne broncha pas. Lenny restait, elle aussi, silencieuse. Bloch nota que personne au moins ne le chassait et entra sur la pointe des pieds, le visage tendu, les mains crispées dans le dos. Il avait laissé la porte ouverte en vue d'une éventuelle retraite. Il garda les yeux rivés sur le haut édredon sous lequel on ne pouvait même pas apercevoir l'avocat. On entendit alors une voix qui demandait « Bloch est ici ?» Cette question asséna littéralement à Bloch, qui s'était déjà bien avancé vers le lit, un coup dans la poitrine, puis un autre dans le dos. Il tituba, s'arrêta le torse penché en avant et dit « Pour vous servir !»«
Qu'est-ce que tu veux ?» demanda l'avocat. « Ce n'est pas le moment. »«
Ne m'a-t-on pas appelé ?» demanda Bloch, plus à lui-même qu'à l'avocat, tenant les mains devant lui pour se protéger et déjà prêt à prendre la fuite.
« On t'a appelé, » dit l'avocat, « mais tu viens quand même au mauvais moment. »
Puis il ajouta après une pause « Tu arrives toujours au mauvais moment. » Depuis que l'avocat avait pris la parole, Bloch ne regardait plus du tout le lit, mais gardait les yeux rivés sur un coin quelconque, comme si la vue de celui qui parlait était trop aveuglante pour qu'il puisse la supporter. K observait étonné cet homme en plein trouble. Ne voyait-il pas que l'avocat faisait exprès de l'humilier sans autre but que d'arborer son pouvoir ? Bloch s'agenouilla tout près du lit et dit « Je suis à genoux, mon avocat !» Mais l'avocat garda le silence. Bloch caressait précautionneusement l'édredon d'une main. Par de rapides signes muets, il demanda à Lenny d'intervenir pour lui auprès de l'avocat. Lenny savait sans doute exactement comment il fallait s'y prendre avec l'avocat, dont elle désigna la main en fronçant les lèvres en avant comme pour un baiser. Aussitôt, Bloch exécuta le baise-main et le répéta deux fois encore sur une injonction de Lenny. « J'hésite à lui dire ce qu'il en est !» dit l'avocat, et l'on vit qu'il secouait un peu la tête. « Pourquoi hésites-tu donc ?» demanda Lenny. K eut l'impression d'entendre là un dialogue bien appris, déjà souvent répété, qui allait se répéter maintes fois encore, et dont seul Bloch pouvait ne pas savoir qu'il n'avait plus rien de neuf. Au lieu de répondre, l'avocat demanda « Comment s'est-il comporté aujourd'hui ?» Avant de s'exprimer sur ce point, Lenny baissa les yeux sur Bloch et observa un bref instant sa façon de tendre les mains vers elle en les frottant l'une sur l'autre dans un geste de supplication. Finalement, elle fit un geste résolu de la tête, se tourna vers l'avocat et dit « Il s'est tenu tranquille et a bien travaillé. » Un vieux marchand, un homme à longue barbe, suppliait une jeune fille de lui décerner un bulletin favorable. Rien ne pouvait le justifier. Il déshonorait presque celui qui regardait. Comme s'il avait été chargé d'enregistrer exactement tout ce qui était dit afin de le dénoncer en haut lieu, K écoutait d'une oreille attentive et détachée. « Qu'a-t-il fait de toute la journée ?» demanda l'avocat. « Pour qu'il ne me dérange pas dans mon travail, » dit Lenny, « je l'ai enfermé dans la chambre de Bonne. J'ai pu vérifier de temps en temps par la lucarne ce qu'il faisait. Il restait à genoux sur le lit, il avait ouvert les documents que tu lui as prêtés et il les lisait. Ça m'a fait bonne impression. » La fenêtre, en effet, ne donne que sur un puits d'aération et n'éclaire presque pas. Le fait qu'il lise quand même me montrait combien il était obéissant. Bloch lança vers K un bref regard de côté, comme si on racontait des choses mémorables à son sujet, qui ne pouvait que faire impression sur K lui aussi. Il semblait maintenant nourrir de bons espoirs. Ses gestes étaient plus libres. Il faisait des va-et-vient sur les genoux. Voilà donc comment fonctionnait cette méthode de l'avocat, à laquelle K, par bonheur, n'avait pas été exposé assez longtemps. Le client finissait par oublier le monde entier et n'espérait plus se traîner jusqu'à la fin de son procès que par cette voie qui ne menait nulle part. Ce n'était plus un client, c'était le chien de l'avocat. Si celui-ci avait donné l'ordre de ramper sous le lit comme dans une niche et une fois là, d'aboyer, il l'aurait fait avec plaisir. K ne comprenait pas comment l'avocat avait pu s'imaginer le mettre dans sa poche par une mise en scène pareille. S'il ne l'avait pas déjà fait fuir auparavant, il y serait parvenu par ce seul spectacle.
Kafka ne fait pas partie d'une ligne philosophique, mais il fait partie de la grande révolution de l'art moderne,
Milan Kundera,
qui était caractérisée par la grande libération de la fantaisie, de l'imagination au pouvoir de l'art moderne. Et c'est le contexte historique, d'après mon avis, de l'œuvre de Kafka. Kafka a été le prosateur qui a introduit le pouvoir de l'imagination dans le roman.
Découvrons maintenant le 9e des 10 chapitres qui développe la fameuse parabole de la loi. Le temps passe. Absorbé par son procès qui va mal, K est de moins en moins performant au travail. Par une matinée pluvieuse, la banque le charge de faire visiter la cathédrale de la ville à un partenaire italien. Mais l'invité n'arrive jamais. Dans l'église déserte, K remarque un religieux qui siège dans une petite chaire, prêt à faire un sermon. Débute alors un étrange dialogue entre K et l'homme de foi, qui bien sûr s'apparente au tout-puissant tribunal. Celui-ci livre à K une mystérieuse parabole, comme en écho à sa situation tragique. K avait presque déjà quitté la zone des bancs et s'approchait de la sortie de la cathédrale quand, pour la première fois, il entendit la voix du religieux. Comme elle se répandait dans la cathédrale, prête à la recevoir. Mais aucune confusion n'était possible et il n'y avait pas moyen d'y échapper. Il appelait « Joseph K !» K s'arrêta net, les yeux rivés vers le sol. Comme tout restait silencieux, il tourna quand même un peu la tête. Le religieux l'invita aussitôt à s'approcher. Il désigna sous lui, d'un index abruptement pointé vers le bas, un emplacement situé juste devant la chaire. « Tu es Joseph K !» dit-il en élevant dans un vague mouvement une main au-dessus de la balustrade. « Oui, » dit K. Il songea que jadis il prononçait toujours son nom avec franchise. Depuis quelque temps, ce nom lui pesait. « Tu es accusé !» dit le religieux d'une voix particulièrement basse. « Oui, » dit K. « On m'en a avisé. » « Alors tu es celui que je cherche, » dit le religieux. « Je suis l'aumônier de la prison. Je t'ai fait venir ici pour te parler. » « Je suis venu ici, » dit K, « pour montrer la cathédrale à un Italien. »« Laisse tomber l'accessoire, » dit le religieux. « Sais-tu que ton procès est dans une mauvaise passe ?»« C'est aussi mon impression, » dit K. « Je me suis donné toute la peine du monde, mais jusqu'à présent sans succès. »« Je crains que ça se termine mal. » « On te tient pour coupable. »« Mais je ne suis pas coupable, » dit K. « C'est une erreur. Comment donc un être humain peut-il tout simplement être coupable ? Nous sommes quand même tous des êtres humains ici, les uns comme les autres. »« C'est exact, mais c'est le discours que les coupables ont l'habitude de tenir. »« Tu cherches trop d'aide à l'extérieur, » dit le religieux sur un ton désapprobateur, « et en particulier auprès des femmes. »« Souvent, je pourrais te donner raison, » dit K, « mais pas toujours. » Les femmes ont un grand pouvoir, en particulier avec ce tribunal qui est presque exclusivement composé de coureurs de jupons. Le religieux inclina la tête vers la balustrade. « Est-ce que tu m'en veux ?» demanda K. « Tu ne sais peut-être pas quel genre de tribunal tu sers. Je ne voulais pas t'offenser. » C'est alors que le religieux vociféra d'en haut. « Tu ne vois donc pas à deux pas devant toi ?» Ils restèrent alors tous deux longtemps silencieux, puis K invita le religieux à descendre de la chaire. Ils firent les 100 pas côte à côte dans l'obscurité de la nef latérale. « Ne te fais pas d'illusions sur le tribunal, » dit le religieux. « Dans les textes d'introduction à la loi, il est question de cette illusion. » Devant la loi, il y a un gardien. Un homme de la campagne vient trouver ce gardien et demande à entrer dans la loi. Mais le gardien lui dit qu'il ne peut pas le laisser entrer maintenant. L'homme réfléchit et demande alors s'il pourra être autorisé à entrer plus tard. « C'est possible, » dit le gardien, « mais pas maintenant. » L'homme se penche pour regarder à l'intérieur. Quand le gardien s'en rend compte, il rit et dit « Si ça t'attire tant que ça, essaie donc d'entrer malgré mon interdiction, mais note bien ceci, je suis puissant. » Et je ne suis que le plus subalterne de tous les gardiens. L'homme de la campagne ne s'était pas attendu à ce genre de difficultés. La loi, pense-t-il, est pourtant censée être accessible à tout le monde et tout le temps. Il reste assis là des jours, des années. Pendant toutes ces années, l'homme observe presque continuellement le gardien. Il oublie les autres gardiens. Et ce premier gardien-là apparaît comme le seul obstacle à son entrée dans la loi. Les premières années, il maudit ce malheureux hasard à haute voix. Plus tard, quand il devient vieux, il se contente de grommeler pour lui-même. Enfin, sa vue baisse, mais il distingue bien maintenant dans l'obscurité une brillance dont la clarté perce par la porte de la loi. Dès lors, il n'a plus longtemps à vivre. Avant sa mort, toutes les expériences qu'il a faites au cours de ce temps se rassemblent dans sa tête en une seule et unique question que jusqu'alors il n'a pas encore posée au gardien. Il l'appelle d'un signe car il ne parvient plus à redresser son corps qui se fige. « Tout le monde, n'est-ce pas, aspire à accéder à la loi, » dit l'homme. « Comment se fait-il que pendant toutes ces années, personne à part moi n'ait demandé à entrer ? Le gardien se rend compte que c'est déjà la fin pour l'homme, et pour atteindre encore son ouïe déliquescente, il lui hurle « Personne d'autre ne pouvait obtenir le droit d'entrer ici, puisque cette porte n'était destinée qu'à toi. Maintenant, je m'en vais et je la ferme. »
Les accusés sont attirants. Ce n'est pas que le fait d'être accusé change aussitôt l'aspect d'un homme. Mais quand on a l'œil tant soit peu exercé, il est facile de distinguer un accusé dans la foule la plus dense. Ils ont quelque chose de particulier, quelque chose d'attirant. Ce n'est pas le sentiment de la culpabilité. Vous n'êtes pas tous coupables.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Yeah, yeah. I've been drinking and I shouldn't come back. I know. But I find myself in trouble, darling. And I had nowhere else to go. Got some whiskey from the bar. Got some cookies.
Un an tout juste a passé depuis l'arrestation de K. Rencontre après rencontre, la logique du tribunal, plus obscure que jamais, garde tout son mystère. Le procès s'achève presque comme il a commencé. Deux inconnus médiocres font irruption chez Joseph K. Mais au long de ces épreuves, le tribunal semble avoir envahi jusqu'à l'esprit de Joseph K. Dans cette dernière scène, celui-ci, vaincu, a abandonné toute révolte et se laisse mener à la mort. La veille de son 31e anniversaire, c'était vers 9h du soir, l'heure du silence dans les rues, deux messieurs entrèrent dans l'appartement de K. Ils étaient en redingote, pâles et gras, et portaient des hautes formes. Après une brève séance de civilité à la porte de l'appartement pour savoir qui entrerait le premier, les mêmes manières se répétèrent avec plus d'ampleur devant la porte de K. Celui-ci, sans qu'on lui eût annoncé cette visite, était assis, également vêtu de noir, dans un fauteuil près de la porte, en train de passer lentement des gants neufs qui moulaient exactement ses doigts dans l'attitude de qui attend des invités. Il se leva aussitôt et regarda les messieurs avec curiosité. « C'est donc vous qu'on a désigné pour moi ? » demanda-t-il. Les messieurs approuvèrent d'un signe de tête. K s'avoua qu'il s'était attendu à une autre visite. « On m'envoie de vieux comédiens de deuxième classe, se dit-il. » Et il regarda tout autour de lui pour s'en convaincre une fois encore. On cherche à en finir avec moi pour pas cher. Dans l'escalier, déjà, les messieurs voulurent prendre le bras de K, mais K leur dit « Attendez qu'on soit dans la rue, je ne suis pas malade. » À peine arrivés à la porte de l'immeuble, ils le lui prirent. Une prise d'école bien répétée, irrésistible. K marchait raide comme un piqué entre les deux hommes. « La seule chose que je puisse faire désormais, se dit-il, c'est de garder jusqu'à la fin une intelligence qui fasse tranquillement la part des choses. » Faut-il que je fasse la preuve que même ce procès d'un an ne m'a rien appris? Que je m'en aille en laissant le souvenir d'un individu rétif à la pensée? Je ne veux pas que l'on dise cela. Je suis reconnaissant qu'on m'ait donné comme compagnon sur ce chemin ces deux messieurs dépourvus d'intelligence et à moitié muets, et qu'on m'ait laissé le soin de me dire à moi-même le nécessaire. K s'en remit à ses deux guides, et s'est uni par un plein accord qu'ils passèrent tous trois un pont au clair de lune. Et c'est ainsi qu'ils sortirent promptement de la ville, qui dans cette direction débouchait presque sans transition sur les champs. Il y avait une petite carrière abandonnée et déserte, tout près d'une maison encore parfaitement urbaine. Les deux messieurs s'arrêtèrent là, soit que cet endroit eût été dès le départ leur but, soit qu'ils étaient trop fatigués pour courir plus loin. Ils lâchèrent alors K, qui attendait sans rien dire. Ôtèrent leur haut de forme et s'épongèrent la sueur du front avec leurs mouchoirs tout en regardant autour d'eux. Partout, la lune baignait les lieux. Après avoir échangé quelques civilités pour savoir qui allait s'acquitter des prochaines obligations, l'un d'eux s'avança vers K et lui retira sa veste, son gilet et pour finir sa chemise. K frissonna malgré lui et l'homme lui donna une légère tape rassurante dans le dos. Il le prit par le bras et fit quelques pas de ci de là avec lui, tandis que l'autre inspectait la carrière à la recherche de quelque endroit qui convienne. Quand il l'eut trouvé, il fit un signe et l'autre y escorta K. Il y avait là un bloc de pierre qui s'était décroché. Les deux hommes assirent K par terre, l'adossèrent au bloc et couchèrent sa tête dessus. Malgré tout le mal qu'ils se donnaient et malgré tout le consentement que leur témoignait K, sa posture demeurait très contrainte. L'un des deux messieurs ouvrit alors son paletot et tira d'un fourreau accroché à une ceinture un couteau de boucher long et mince à double tranchant, le tint en l'air et vérifia les tranchants dans la lumière. Les atroces politesses recommencèrent. L'un des deux tendit le couteau à l'autre par-dessus la tête de K. Celui-ci savait dès lors parfaitement qu'il eût été de son devoir de s'emparer lui-même du couteau et de se l'enfoncer dans le corps. Il n'en fit rien cependant, tourna son cou encore libre et regarda autour de lui. Il ne pouvait pas faire ses preuves complètement, prendre en charge tout le travail des autorités. Ses yeux tombèrent sur le dernier étage de la maison contiguë à la carrière. Telle une lumière jaillissant soudain, les deux battants d'une fenêtre s'y ouvrirent d'un coup, et un homme qui, si loin et si haut, semblait faible et fluet, se pencha d'un mouvement brusque, loin en avant, en tendant les mains encore plus loin. Qui était-ce ? Un ami ? Un homme bon ? Quelqu'un qui compatissait? Quelqu'un qui voulait l'aider? Était-il seul de son espèce? Y avait-il encore une aide? Des objections qu'on avait oubliées? Bien sûr qu'il y en avait. La logique est certes inflexible, mais elle ne résiste pas à un homme qui veut vivre. Où était le juge qu'il n'avait jamais vu? Où était le tribunal suprême devant lequel il n'était jamais arrivé? Il leva les mains en écartant tous les doigts, mais les mains de l'un des deux messieurs se posèrent sur la gorge de K, tandis que l'autre lui plantait le couteau dans le cœur et l'y faisait tourner deux fois. Les yeux défaillants, K vit encore tout près de son visage les deux messieurs, joue contre joue, en train d'observer la décision. « Comme un chien, » dit-il, comme si c'était la honte qui allait lui survivre.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Pierre Monteil à la technique. Elle a été préparée par Leïla Kourousselikoua, Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.